tous les êtres humains naissent libres et égaux.
Auditeurice de Nantou d'ailleurs, bonjour. Bienvenue sur la planète de la Ligue des droits humains, section Nantes, autrement dit de la LDH nantaise. Au bar Personne, où nous avons enregistré la chronique mercredi dernier, eh bien au bar Personne, on fêtera les 3 ans du Shop Tattoo samedi 7, c'est-à-dire après-demain. À partir de 18h, il y aura pizza, DJ set, bonne humeur et tout ce qu'il faut. Le bar Personne, quant à lui, vous accueille tous les jours comme à son habitude. Vous pouvez, comme à son habitude et à la vôtre aussi, y boire, y manger, y jouer pour les enfants, y jouer pour les grands, avec notamment le boulodrome qui vous attend. Et nous ? Eh bien nous allons parler du droit de vote, des municipalités, ai-je dit donc, et des enjeux qui les accompagnent. Et pour en parler le mieux possible, nous avons avec nous Christophe,
bonjour,
Isabelle,
bonjour,
Nathalène,
bonjour,
Emmanuel, bonjour, et Franz. Alors les municipales, oui, eh bien il se trouve que les 15 et 22 mars prochains, les citoyens français et européens sont invités à voter. Aux dernières élections municipales, moins de 40% des inscrits sur les listes électorales sont allés voter, soit plus de 60% d'abstention. Pourquoi voter ? Voter pourquoi ? Voter pour qui ? Cette chronique sera l'occasion de rappeler qui est concerné par le droit de vote, pourtant réputé universel, et quelles sont les compétences du maire et des politiques que nous influençons par nos votes. Tout d'abord, l'universalité du droit de vote, en parlant notamment du droit de vote des femmes accordé aux femmes et aux étrangers. À la veille du 8 mars, pourriez-vous nous faire un petit rappel des luttes féministes ayant mené à l'obtention du droit de vote des femmes en France ?
Effectivement, ça a été conquis de haute lutte. C'est-à-dire que le droit des femmes, tu as dit qu'elle leur a été accordée ce droit. Non, elles l'ont pris. Ça a été un vrai combat qu'on peut faire remonter à la Révolution française avec Olympe de Gouges, qui est maintenant quand même une figure bien connue. C'est un combat relatif à l'égalité civique, donc c'est pas du tout secondaire comme problème. Ensuite, bien sûr, même si ça a été moins important qu'en Angleterre, il y a le fameux mouvement des suffragettes, comme leur nom l'indique.
Oui.
Avec Hubertine Auclert, qui a fondé la Société sur le suffrage des femmes et qui a mené des actions importantes, très médiatisées à l'époque, de désobéissance civique, puisqu'elle refusait de payer l'impôt. Et on verra aussi le rapport avec justement le droit de vote des étrangers. Elle disait « je ne vote pas, je ne paye pas ». Et elle avait une autre affirmation qui est aussi importante. Les femmes qui paient des impôts doivent avoir le droit de voter comme les hommes. Les réactions ont été assez violentes. D'abord d'incompréhension, même encore maintenant d'ailleurs, l'image des suffragettes, elle reste encore relativement ridicule en dehors des cercles féministes. On a encore cette image de personnes qui disent un peu n'importe quoi, qui réclament à tort et à travers. Une grosse évolution a été liée aux guerres. Malheureusement, puisque que ce soit la Première Guerre mondiale ou la Seconde, le poids économique, social des femmes ne pouvait pas être passé sous silence. Et du coup, en raison de leur rôle important dans la résistance, il y a eu une pression sur le général de Gaulle qui a effectivement cédé. Mais un mouvement qui n'était pas lié simplement à la Seconde Guerre mondiale, qui était encore bien antérieur, et qui a effectivement, en avril 1944, considéré et permis que les femmes votent et rentrent dans l'universalité du droit de vote.
Et tu faisais un lien, du coup, avec le droit de vote des étrangers.
Ah oui, il est, à mon avis, très direct, puisque c'est le rapport aux minorités. C'est-à-dire qu'il s'agisse des minorités qualitatives comme les femmes, c'est-à-dire qu'ils vont être tenus dans un rôle de mineur, même si quantitativement, il n'y a pas de minorité de femmes. Ou bien là, du côté des étrangers, on est dans la minorité quantitative, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nombreux. Depuis 1992, les étrangers en France, communautaires, c'est-à-dire appartenant à l'Europe, la communauté européenne, peuvent voter en France aux élections locales. On peut dire aussi, c'est important aussi peut-être d'avoir ce regard un petit peu en prenant du champ. Que font les autres pays en Europe ? Eh bien, la Suède a accordé le droit de vote en 75, le Danemark en 81, les Pays-Bas en 85 et la Belgique en 2004 aux élections locales. Donc là, juste pour avoir des repères. Et enfin, le droit de vote des étrangers a été un leitmotiv qu'on a entendu depuis 1981 en France, depuis Mitterrand, 81. Il y a eu un engagement du candidat Hollande en 2012. Et on n'y est toujours pas. Il y a des résistances très fortes.
J'ai un point d'interrogation. Tu as dit avril 44.
45.
Oui, c'est ça, parce qu'avril 44, 45. La France n'était pas libérée, 45. Donc je tourne en rond depuis 2 minutes.
Absolument, c'est moi qui me suis trompé, avril 45.
La Ligue est depuis très longtemps positionnée pour le droit de vote des étrangers.
Et du coup, quelles sont ses actions ?
Prise de position, des déclarations, des soutiens, des tribunes, une affirmation claire et nette de ce droit, parce que l'enjeu, il est pas, c'est pas uniquement un enjeu, je dirais, pratico-pratique du type, étant donné que effectivement les étrangers, donc non communautaires, payent des impôts, donc ils ont le droit de dire qu'est-ce qu'on va faire de leur argent. C'est pas uniquement ça, c'est vraiment la reconnaissance d'une égalité civique. C'est sans doute pour ça qu'il y a d'aussi importants freins, c'est que c'est une reconnaissance forte du fait que la citoyenneté n'est pas forcément liée à l'ethnicité. C'est-à-dire que la nation, même au niveau local, est une communauté de destin, une communauté d'action, et pas une communauté ethnique. C'est ça l'enjeu du droit de vote des étrangers.
D'accord.
On peut juste noter que la LDH a envoyé, a priori, a envoyé un courrier aux parlementaires, puisque le 12 février devait être discutée une proposition de loi, en l'occurrence des écologistes, qui remettait sur la table ce droit de vote des étrangers. Donc la LDH en a profité pour remettre encore sur la table ces arguments pour dire pourquoi les étrangers devraient pouvoir voter aux municipales, notamment parce qu'ils payent des impôts et qu'ils font partie
d'une communauté de destin.
Et ça concernerait 2 millions d'étrangers en France.
Catch a half a lump, sit with me on a muddy clump, we'll sing a song of days gone by.
On parle donc des municipales qui se tiennent les 15 et 22 mars. Donc les municipales, on élit un maire et une équipe municipale. Mais de quoi décident ces équipes municipales ? Quelles sont les compétences du maire ?
En fait, le maire, il est un peu biface. Il y a deux grands piliers. D'un côté, il est chef de l'exécutif. C'est-à-dire qu'il va exécuter des décisions. Et puis d'un autre côté, il est le représentant de l'État dans la commune. C'est dans ce sens-là qu'il peut avoir d'ailleurs des prérogatives de police sous l'autorité
du préfet.
Merci, Christophe, du préfet. Très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, et ça c'est très important, que c'est le maire qui va décider des enveloppes qui vont être alloués à différentes associations. Associations qui peuvent être de type culturel ou de type aussi de solidarité. Donc évidemment, là, c'est un rôle extrêmement important et qui va être extrêmement influencé par la couleur politique du maire élu.
C'est ce qu'on a pu voir notamment la saison passée avec l'évolution des subventions données ou enlevées par la région.
Par exemple.
Absolument, absolument. Et ça change complètement le mode de vie, la façon de vivre dans une localité ou dans une région.
Le maire, c'est un grand électeur. Donc il a aussi une influence au niveau national.
Alors, effectivement, mais pas seulement le maire, c'est le conseil municipal. Il faut savoir que les conseillers municipaux, au même titre que les conseillers départementaux ou régionaux, sont de grands électeurs et donc participent à l'élection des sénateurs. Donc on voit là que, si on en revient à l'élection municipale, ça dépasse quand même le cadre purement local, puisqu'on le Sénat, ça concerne quand même la politique nationale. Le vote au municipal n'est pas anodin. Il dépasse largement l'enjeu purement local.
Il y a un double enjeu.
Il y a un double enjeu local et national. Ça, c'est ce que tu disais, Christophe. Là, c'est complètement évident. Mais même sur les différentes compétences du maire, sachant qu'il a des compétences en termes de police locale, là, ça nous rapproche aussi des thématiques de la LDH, c'est-à-dire des droits. Le maire a une compétence relative à la police, a une compétence relative à la surveillance des citoyens de sa municipalité, les caméras. Donc on est là, vraiment très très, enfin en plein cœur du respect ou non des droits individuels.
Le maire a des compétences sur tout ce qui concerne les écoles primaires. Tout ce qui concerne les déplacements, le réseau routier, enfin, donc ça implique forcément des choix politiques, tout ça. C'est donc important parce que, effectivement, encore une fois, la couleur de politique de l'élu influencera forcément orientera ses décisions.
D'où l'importance d'aller voter. Mais alors, si malheureusement on a poney à Kouagim ou crêpe party les 15 et 22 mars, comment est-ce qu'on peut faire pour voter ?
C'est très simple, il suffit de faire une procuration. Alors pour ça, il y a deux possibilités, soit se rendre au commissariat le plus proche ou en gendarmerie quand on est en zone rurale, ou bien par internet. Et il n'y a pas de date limite à ce sujet. Alors bien sûr, je conseillerais quand même de s'y prendre suffisamment tôt, mais on peut a priori faire la procuration jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire la veille du scrutin.
Sans haine, sans armes, sans violence, de résistance, sans désobéissance, c'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face. Nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence.
La LDH a comme mission de défendre l'état de droit et la démocratie. Et en tant que telle, elle considère que les idées d'extrême droite sont une menace directe à ses principes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la position de la LDH vis-à-vis des partis portant des idées d'extrême droite ?
La position de la LDH est très claire. C'est pas une voie pour les partis portant des idées d'extrême droite. La LDH ne donne aucune consigne de vote, puisque elle n'est pas partisane, mais elle est la seule consigne que donne la LDH est d'abord d'aller voter, donc ça fait deux consignes quand même, d'abord d'aller voter et surtout pas une voix pour les partis présentant des idées d'extrême droite. Ça, c'est très, très clair et c'est la base de notre combat.
Ce qui sous-entend qu'il n'y a pas que les partis affichés d'extrême droite qui portent des idées d'extrême droite. Éventuellement, il y en aurait d'autres.
On peut le considérer, oui.
Vous avez des exemples ?
Comme ça, au déboté. J'ai entendu récemment quand même des déclarations de certains membres même du gouvernement, mais ou de l'opposition, enfin de l'opposition actuelle au gouvernement, des gens de droite, tenir des discours qui étaient très très proches de ceux du RN. Faut être clair.
Qui attaquait donc des droits constitutionnels.
Oui, j'ai en mémoire quand même un ancien ministre de l'Intérieur qui a déclaré que l'état de droit, c'était pas sacré ni intangible. Donc c'est quand même gravissime. Malheureusement, on constate que effectivement, les idées d'extrême droite infusent dans la société et dans le débat public.
On parle des partis d'extrême droite, mais la tendance actuelle, c'est de mettre l'extrême droite et l'extrême gauche dans le même panier concernant la menace qu'ils représentent pour les droits et libertés. Qu'est-ce que la LDH en pense ?
Alors, je pense qu'on peut penser, c'est même assez clair historiquement, que ça n'a franchement pas grand-chose à voir. D'une part, parce qu'aujourd'hui, on n'en est plus en France, en tout cas, du tout, même du côté de l'extrême gauche, dans des partis qui réclameraient la fin de la démocratie. C'était vrai il y a encore pas mal de temps, mais ça ne l'est plus vraiment. En revanche, l'extrême droite et la droite de l'extrême droite continuent à être des partis révolutionnaires. C'est quand même ça qu'il faut bien avoir en tête. D'autre part, le rapport à la violence n'est pas du tout le même, puisque le rapport à la violence directe, la violence physique, est inscrite dans le projet politique de l'extrême droite, pour employer un terme grave, mais qui est quand même celui-ci, d'extermination, puisqu'on l'a vu historiquement, ça avait été le cas, n'est pas inscrit dans un programme de gauche ou d'extrême gauche.
Est-ce que tu as d'autres exemples plus actuels de violence qui seraient la conséquence des projets des listes d'extrême droite ?
On l'a vu historiquement, très clairement, évidemment, en Allemagne. On l'a vu très clairement, encore historiquement, en Amérique du Sud. Il y a plusieurs années, on a vu les résultats en termes de, en termes de meurtres, des hôtes de l'opposition, par exemple, en termes de dégradation des conditions sociales, donc je dirais des meurtres de façon détournée par dégradation de conditions sociales. Et beaucoup plus récemment, on l'a vu aussi récemment au Brésil, avant que Lula ait été réélu. Que oui, l'extrême droite a un projet de violence inhérent à son essence elle-même.
On entend beaucoup l'extrême droite, on n'a pas encore essayé.
Là encore, les exemples historiques dont on vient de parler prouvent que non. On a essayé. L'extrême droite, on sait ce que c'est. On en a tiré des conclusions, justement, c'est-à-dire plus jamais ça. L'extrême droite, sous une forme qu'on appelle l'illibéralisme, mais je dirais qui est une forme moderne de l'extrême droite, a remonté ses crocs en Hongrie, en Europe, et très clairement aux États-Unis avec Trump aujourd'hui. Et on voit, pour refaire la boucle, avec le droit de vote, comment Trump est en train d'attaquer le droit de vote. Alors pas directement, puisque la stratégie est plus maligne, mais indirectement. Les mid-termes, par exemple, sont d'avance déconsidérés en disant que les résultats ne seront pas fiables. Ou bien on réduit de plus en plus la possibilité d'avoir accès au vote pour les populations les plus précaires. Il faut montrer de plus en plus de papiers, c'est de plus en plus compliqué, etc. etc.
Et si on revient à la France, on a quand même quelques municipalités françaises qui ont des élus locaux d'extrême droite. Qu'est-ce que ça donne comme conséquence ?
La politique dans ces communes-là n'est pas aussi violente que ce que vient de décrire Isabelle. On a constaté, alors bien sûr, des baisses des subventions de toutes les associations qui ne leur conviennent pas. Exemple à Hénin-Beaumont, par exemple, la LDH a vu supprimer sa subvention ainsi que son local. Le Secours populaire a été aussi pénalisé car considéré comme aidant les migrants. On a vu à Fréjus, au Pontet, à Beaucaire. Les organismes sociaux ont été sous-financés, les baisses des aides sociales pour les CCAS, par exemple. À Fréjus, les centres sociaux ont fermé carrément. On a vu des baisses des aides pour les écoles publiques à Perpignan et à Béziers. Alors, ne sont pas attaquées que les associations qui pourraient présenter, comment dirais-je, une idéologie qui soit contraire à celle du RN. Dans certaines villes, c'est même l'amicale des sapeurs-pompiers, le club de foot ou de hand qui a été attaqué. C'était le cas à Beaucaire, par exemple. Tout le côté culture aussi est fortement attaqué, hein, avec là aussi une baisse des subventions pour les compagnies. Les bibliothèques qui sont plus ou moins encadrées, hein, le choix des livres. Il y a même eu certaines municipalités où il a été imposé que soit acheté le livre de Zemmour ou de Villiers. Enfin...
Tout ce que cite Christophe, qui est très éclairant, parce que ça montre bien que le projet de l'extrême droite, c'est l'attaque des droits, et des droits dans leur matérialité. C'est-à-dire que même si l'extrême droite peut arriver au pouvoir en respectant le droit de vote, donc on va dire très bien, ils sont élus, il faut bien avoir à l'esprit que le droit de vote, donc un des droits, est un moyen et non pas une fin pour l'extrême droite. C'est ça qui est extrêmement important à avoir en tête. Ce sont des partis, l'extrême droite se distingue par le fait qu'elle n'est pas démocratique, c'est-à-dire qu'elle va détruire les droits, on le voit avec ce que vient de citer Christophe, il dit détruire les droits d'une façon très concrète, mais utiliser quand ça l'arrange un droit pour parvenir à ses fins. C'est un moyen et jamais une fin en soi.
Des choses qu'on peut voir outre-Atlantique, par exemple.
Exactement. Exactement, les livres qui sont interdits dans plusieurs États américains, a priori, on se dit, c'est pas si grave, c'est pas si embêtant que ça, et puis finalement, on n'a jamais essayé, ben voilà, quand on essaye, voilà ce qui arrive, et très vite.
Il y a un certain nombre de gens qui disent, il y en a marre de faire front, ça fait trop longtemps qu'on nous demande de voter contre, les prochaines, on laisse tomber, on s'abstient. Et puis, s'il passe, on verra bien. Les gens, au moins, se rendront compte de ce que c'est que de la réalité d'être dirigé par des gouvernants d'extrême droite. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ?
Alors, je peux comprendre le désappointement des gens qui n'arrivent pas à voter réellement pour les idées qu'ils portent. Néanmoins, il est important, il est essentiel, il est crucial de faire barrage aux idées d'extrême droite, parce que une fois qu'on est embarqué dans cette aventure, c'est un non-retour, il n'y a pas possibilité de faire marche arrière. Et ce sont des gens qui ne rendent pas le pouvoir. Il ne faut pas croire que seuls les immigrés seront concernés. Hein. Il y en a peut-être que ça pourrait rassurer, mais non, c'est l'ensemble de la population, y compris les plus démunis. Le RN qui se veut notamment l'ami des pauvres, c'est un mensonge. Ils seront les premiers à en pâtir. Un exemple, au Pontet, par exemple, la garderie et la cantine étaient gratuites pour les familles les plus démunies, et cette gratuité a été supprimée. Donc c'est un petit exemple à un niveau local, mais qui se reproduira forcément à un niveau plus large.
Tu disais, Christophe, qu'une fois que les personnes portant les idées extrêmes droites sont au pouvoir, elles n'en partent plus. Ça fait écho à ce que Isabelle, tu disais tout à l'heure, sur les attaques des droits en place qui peuvent être menées outre-Atlantique pour permettre de prolonger, comme ça a été le cas aussi tenté en Amérique du Sud, pour prolonger la présence à la tête de l'État des personnes portant ces idées-là.
Y a-t-il aujourd'hui des communes dirigées par des partis d'extrême droite en Loire-Atlantique ? Christophe.
Alors, pour l'instant, on s'enorgueillit en Loire-Atlantique de n'avoir aucune commune aux mains du RN. Enfin, du RN ou
d'autres
partis d'extrême droite. De même que nous n'avons aucun député. C'est une grande fierté quand même. On n'est pas, il n'y a pas beaucoup de départements qui puissent en dire autant. Il faut être très vigilant parce que l'Ouest fait partie des objectifs du RN notamment. Hein, il souhaiterait bien s'y implanter. Et donc si on se recentre sur la Loire-Atlantique pour les municipales, il y a civile dans laquelle le Front National va présenter des listes. Alors ces villes, c'est Nantes, Saint-Nazaire, La Baule, Pornic, Donges et Herbignac.
Et est-ce qu'il y a des risques réels que les listes passent dans l'une de ces villes?
Alors il y a un risque réel, oui, notamment sur les communes situées sur le littoral. Alors en premier lieu Donges, mais aussi Herbignac et Pornic. La Ligue s'est engagée fortement dans ces municipales, notamment sur ces communes-là. Hein, on a initié ou de moins fortement soutenu la création de collectifs contre les idées d'extrême droite. Alors bon, il y en a eu un créé sur Nantes, enfin qui existait déjà, qui avait été créé au moment des législatives en 2024. L'année dernière, on a participé à la création de celui de Châteaubriant.
Un collectif, tu dis, un collectif qui rassemble des associations.
Qui rassemble des associations et des syndicats. Hein. Donc il y en a un sur Nantes, un sur Châteaubriant, et il y en a eu un de créé l'année dernière, en fin d'année dernière, sur le bassin nazairien, pour justement essayer d'unifier toutes les forces progressistes et pour contrer les ambitions du RN.
Collectif qui mène des actions, notamment auprès de la population, par exemple les actions porteurs de parole qu'on a pu voir sur qui ont pu être menées sur les marchés de Bassindre.
Bassindre, on en a fait au marché Clémenceau. Alors on a fait ça, on a fait...
Peux nous expliquer rapidement ce que c'est que porteur de parole?
Alors porteur de parole, c'est très simple. L'idée de base, c'est de donner la parole aux citoyens. Hein, les entendre enfin. Donc on va sur un marché avec une question simple et on demande aux gens de répondre à cette question en essayant d'orienter la discussion vers tout ce qui concerne l'extrême droite pour réussir à persuader et à convaincre les gens de... Encore une fois, bon, de l'importance de voter et de l'importance de faire barre, enfin de voter, de ne pas donner sa voix à l'extrême droite. Autrement, on a aussi organisé, alors là c'était à Saint-Nazaire, une fête solidaire.
À Châteaubriant aussi, non?
Alors à Châteaubriant aussi. La fête de la soupe, tout à fait. On a organisé, alors c'était sous l'égide de Greenpeace récemment, mais un parcours dans Nantes qui s'appelait Défendons les lieux qu'on aime, hein, c'est-à-dire qu'on allait dans des lieux symboliques qui seraient menacés en cas d'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, comme des associations féministes, des associations LGBT,
les syndicats,
les lieux culturels. On essaye d'être actifs, d'être visibles de tous.
Nous approchons de la fin du temps imparti à la chronique. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter ?
Redire l'importance d'aller voter, déjà.
Hein,
même si, encore une fois, on peut être désabusé, notamment quand on est un électeur de force progressiste. Mais malgré tout, voilà, c'est le seul pouvoir qu'on ait encore et il faut aller voter et surtout... faire en sorte que jamais, jamais l'extrême droite n'arrive au pouvoir en France.
Isabelle ?
Oui, un dernier mot. Je dirais que la démocratie, ça s'use quand on s'en sert pas. Donc allez voter.
La démocratie, ça s'use quand on ne s'en sert pas.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux.
C'est ici que notre tour d'horizon s'achève. Un grand merci à tous, Isabelle, Christophe, Nathalène, Franz et Emmanuel. N'oubliez pas dans les dates à venir, dimanche prochain, le 8 mars, la journée de défense des droits des femmes et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Pour s'y bien préparer, le samedi 7 mars, la LDH 44 propose une conférence gesticulée intitulée « Histoire d'un secret de polichinelle » qui parle du droit à l'avortement. Cette conférence gesticulée se déroulera à la maison de quartier des Haubans à partir de 18h. Elle s'inscrit dans la semaine d'éducation contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Si vous avez des questions, des réactions ou des réponses, écrivez-nous à nantes@ldh-6france.org. Et d'ici le prochain plateau, nous vous retrouverons, si vous le souhaitez, au bar Personne. Le dernier mercredi du mois prochain, nous vous retrouvons à défaut le premier mercredi du mois d'avril, c'est-à-dire le mercredi 1er avril à 18h30. D'ici là, nous vous souhaitons de belles écoutes sur les ondes de JetFM, la station des droits et des libertés.